Bonjour, le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous sommes situés à Angonje, près de l'hôtel Heliconia, Angonje 2. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifiés en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
De Dieu et qu'on prend le temps vraiment de l'appliquer par rapport à ce qu'on entend, on voit la différence. Ça ne sert à rien de se déplacer, de rester des heures à écouter quelque chose et puis quand on repart chez nous, on n'applique pas. Ça ne sert à rien, on a juste perdu notre temps en fait. Et c'est le défaut de beaucoup d'enfants de Dieu, de beaucoup de chrétiens. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu et que vous sentez dans votre cœur que c'est inspiré, tout de suite vous devez prendre ça et commencer à appliquer ça dans votre vie. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Dis avec moi la sagesse. La sagesse. Et la sagesse, c'est prendre la parole de Dieu et l'appliquer dans notre vie. Et quand on l'applique dans notre vie, on voit les fruits. Dis avec moi encore la puissance de la prière. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 2, au chapitre 4, au chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Qui nous dit, c'est notre verset de base, avec l'autre verset qu'on va voir après. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et 1 Corinthiens au chapitre 4 au verset 20, Paul rajoute ceci, car le royaume de Dieu, dis avec moi le royaume de Dieu, ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Donc, juste pour récapituler, on a commencé ce message en parlant du secret de la réussite de Jésus, en nous faisant, au travers de la parole, le Seigneur nous montrait que le secret de la réussite de Jésus, c'était les temps d'intimité qu'il passait avec Dieu dans la prière. Jésus consacrait beaucoup de temps dans la prière et c'est ce qu'il faisait qu'il était un homme exceptionnel. Après cela, on a continué en montrant que la première raison pour laquelle nous devons prier pour avoir la puissance, la première raison pour laquelle nous devons prier pour voir Dieu se manifester de manière puissante dans nos vies, c'est d'abord pour la manifestation des fils de Dieu. Parce que la Bible dit, Romains 8 au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pour que les fils de Dieu se manifestent, c'est par la prière. Pour que le réveil se manifeste, pour qu'il y ait une effusion de la gloire de Dieu dans notre nation, c'est la prière. Ce n'est pas les beaux discours ou bien les beaux costumes que certains portent. Non, c'est la prière. C'est lorsque l'église que nous sommes, on se lève, on se met à prier, qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre pays. Amen. C'est très important de comprendre que tout se passe, tout se débloque, tout se fait dans la prière. Mais aussi au niveau individuel, au niveau de notre propre vie, pour que les choses se débloquent, pour que Dieu se manifeste de manière puissante dans notre vie, quel que soit le domaine, on doit prier. Dis avec moi encore la prière. Ouais. Et la deuxième raison pour laquelle on doit demander à Dieu la puissance, c'est simplement pour le salut des âmes, pour que les gens soient sauvés. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut avoir les plus belles églises du monde, les gens qui sont là dehors, ils ne croiront pas comme ça. Ils ne croiront pas comme ça. Les gens préfèrent aller dans les religions et dans les sectes que de venir à Christ, malheureusement. Pourtant, Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et les gens, même si on le leur dit, ils sont durs d'oreille. Mais pour qu'ils soit touché par Dieu, il faut que Dieu intervienne de manière spectaculaire, de manière puissante. Et ça, c'est spirituel, ça se fait dans la prière. Dis encore avec moi la prière. Amen. Et on a commencé, et on va finir aujourd'hui avec ça, on a commencé à parler de 8 clés pour déclencher la puissance de la prière. On a dit que la première, c'était la révélation de la parole, parce que tout part de la parole. La deuxième clé, c'était l'importance d'avoir une soif, d'avoir une soif ardente pour Dieu, avoir soif de Dieu. Dieu se manifeste et Dieu se révèle à ceux qui ont soif. Les gens qui n'ont pas soif ne peuvent pas expérimenter Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et Dieu ne se révèle pas comme ça. Quand on lit l'histoire de la Bible, les hommes de Dieu, les gens qui ont expérimenté des choses fortes avec Dieu, c'est des gens qui avaient vraiment soif. Dis avec moi la soif. On a également dit que la troisième clé, c'était le jeûne. Le jeûne, l'importance de se consacrer, l'importance de disposer son esprit à entendre la voix de Dieu, l'importance de soumettre notre chair, parce que tout simplement, quand on entre dans une phase où on est vraiment en recherche de Dieu, c'est important aussi de penser au jeûne, parce que le jeûne, la Bible nous le montre, c'est une clé. Amen. La quatrième clé, c'était la prière sincère. Dis avec moi la prière sincère. On a également vu dans la Bible que beaucoup de gens ont expérimenté la puissance de Dieu, telle que la femme à la perte de sang, qui ont expérimenté la puissance de guérison parce qu'ils ont été sincères avec Dieu. Les gens qui prient de manière sincère sont des gens qui touchent particulièrement le cœur de Dieu. Et la sincérité est quelque chose que seul Dieu peut voir. On peut prier, c'est pas parce que quelqu'un élève la voix très très fort, plus fort que tout le monde, « Oh Seigneur !» qu'il est plus sincère que les autres. Non. Dieu ne regarde pas au bruit. Dieu ne regarde pas à la gestuelle qu'on fait. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et c'est dans le cœur qu'il voit la sincérité de nos paroles. C'est pour ça que David dit dans le livre des Psaumes, « Regarde dans mon cœur et tu verras qu'il n'y a pas de différence entre ce que j'ai dans mon cœur et ce que je dis. » C'est ça la sincérité. Et la sincérité est une clé très très importante pour que Dieu se révèle dans notre vie de manière puissante. Amen. Et la femme à la perte de sang était un très bon exemple. Non seulement elle a persévéré, non seulement elle a eu de l'audace, mais elle a dit une parole que je répète, qui se trouve dans Marc chapitre 5 au verset 2. Si je pouvais au moins, si du moins j'arrive à toucher un bout de ses vêtements, je serais guéri. Cette parole était pleine de foi. Et quand elle a dit ça, elle a presque dit ça du fond de son cœur. Elle a murmuré ça, personne ne l'a entendu. Mais le fait juste d'avoir prononcé cette parole-là, c'est parti au ciel, et au ciel, ça a résonné très très fort, cette parole-là. Et Dieu a dit, elle, sans même que Jésus le sache, est-ce que tu sais que tu peux arracher même ta grâce à Dieu sans même que lui-même il le sache? Et lui-même il remarque, il dit, oh, mais il y a quelqu'un qui m'a touché ici, il y a quelqu'un qui a été violent. Et Jésus-Christ dit, la Bible dit, Jésus aussi s'est aperçu immédiatement que quelqu'un a fait appel à quoi? À sa puissance de guérison. Marc 5, 24, 34. Quelqu'un a fait appel à sa puissance de guérison. Ça, c'était la foi, ça. Ça, c'était la foi. Et la femme à la perte de sang a dit, si seulement. Le si seulement, là, c'est puissant. Parfois, il ne faut pas beaucoup parler. Parfois, il ne faut pas beaucoup parler. Juste pour finir avec ce point-là, on a aussi un autre bon exemple. C'est l'exemple de Anne. Vous connaissez Anne? Anne est un très, très bon exemple. Anne était une femme qui souffrait. Était une femme qui était malheureuse parce qu'elle désirait avoir un enfant. Et elle venait chaque jour faire des prières à Dieu. Mais elle se demandait pourquoi Dieu ne l'exaucait pas. Mais un jour, elle a fait une prière sincère. Et quand le sacrificateur l'a traité de soularde, elle lui a répondu ceci. Je crois que c'est dans 1 Samuel, chapitre 1, verset 15. « Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Vous savez, la parole qui a touché Dieu ici, c'est celle-là. « Je répandais mon âme. » Répandre son âme. Comment est-ce qu'on répand son âme devant Dieu? Comment? Elle était là et puis elle déversait simplement. ses larmes en toute sincérité. Et Dieu a vu la sincérité dans cette attitude-là et l'a exaucée. Gloire à Dieu. Donc, sa prière, la prière sincère, est une clé très puissante pour toucher le cœur de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par le bruit. Dieu n'est pas impressionné par la multitude des activités. Ce qui touche Dieu, c'est la sincérité. Il faut être sincère avec le Seigneur. Et quand tu regardes l'attitude de beaucoup de gens par rapport à leur relation avec Dieu, tu te rends compte que ces gens ne sont pas sincères. Mais ces gens, par contre, veulent expérimenter des grâces. Ils veulent expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Ils veulent voir des choses se passer dans leur vie, mais ils ne voient rien. Je vous ai dit au tout début que la première raison pour laquelle les chrétiens arrêtent de ne prient pas, la première raison pour laquelle les chrétiens ne prient pas, c'est parce qu'ils n'obtiennent pas de résultats. Ils prient, mais il n'y a rien qui arrive dans leur vie. Rien ne se passe. Souvent, c'est parce que Jacques nous dit que c'est parce qu'ils prient mal. Le prier mal, là, c'est la sincérité. Ils ne sont pas sincères. Un jour, ils sont là. Un autre jour, ils ne sont pas là. Un jour, ils servent Dieu. Un autre jour, ils ne servent pas Dieu. À la moindre incartade, ils ne sont plus là. Ils retournent dehors, etc., etc. Ils ne sont pas, un peu comme Simon, ils ne sont pas constants. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Un jour en haut, un autre jour en bas, un jour en haut. Ça, c'est un manque de constance et de sincérité vis-à-vis de Dieu. Quelqu'un qui est sincère et fervent, c'est quelqu'un, quand il a décidé quelque chose, il ne lâche pas. C'est pour ça que l'une des premières clés pour pouvoir réussir et s'épanouir dans la vie, c'est de désirer ça. Il faut avoir un désir fort et profond de pouvoir faire un certain nombre de choses. Quand tu veux quelque chose, il faut que tu le désires, non? Il faut que tu le désires. Donc, quand tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie, il faut le désirer. Si tu ne désires pas, c'est pour ça que Dieu dit, Jérémie 29, au verset 13, que je me révèle à ceux qui me cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur. Celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se révéler à lui. Mais quand Dieu regarde, là, il pèse. Il voit qu'il n'y a pas le cœur. Il dit, oh, toi, c'est juste des paroles. Ce peuple m'honore de belles paroles, mais en fait, son cœur est loin de moi. Et souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Parfois, vous pouvez voir une église remplie. Les gens, les mains levées, tout ça. Mais quand Dieu passe parmi les rangs, là, il y a juste une personne qui va le toucher. Juste une personne qui va être sincère. Parce que souvent, les gens sont dans les stéréotypes. Souvent, les gens sont dans les stéréotypes. Les gens, ils aiment le sensationnel. Les gens, ils aiment ce qu'ils appellent la puissance. Ce matin encore, j'étais en train de regarder des photos d'une conférence qu'il y a eu dans un pays étranger. Et puis, je voyais vraiment, c'était très spectaculaire, les gens qui sautaient, les gens qui tombaient, les gens qui tremblaient, etc. J'ai dit, ah! Et puis, tu vois le bishop, moi, je l'appelle le bishop, parce qu'à ce niveau-là, c'est un bishop obligé. Tu vois, le bishop, moi, ils ont pris des photos, c'est presque des Sangokan, hein. Et tu vois, quand il fait ça, là, tu vois, la personne... je t'ai dit vraiment. Et puis on met ça sur internet, tout ça. Quand tu regardes la photo, la première question c'est est-ce qu'ils sont vrais là vraiment? Parce que là, tu vois, oh non, la personne est par terre. Puis tu vois, il est là, il met la main comme ça. Genre, il y a quelque chose qui sort, tu vois. Là. J'ai dit, ah bon, j'espère vraiment que Dieu est là. Parce que sinon, c'est vraiment de la comédie. C'est vraiment de la comédie. Parfois Dieu est dedans. Parfois Dieu est dedans. Mais les anglophones, ils aiment vraiment faire le spectacle. Vraiment, ils aiment trop le show. Trop! Les francophones n'aiment pas trop ça. Mais les anglophones, oh, ils sont trop dans le show. Et puis, quand tu vois le gars arriver, on montre les photos, il arrive comme un... Tu vois la cravate monter jusqu'ici. Tu vois le costume est jaune, là, le pantalon est vert. Tu vois, les chaussures sont longues comme ça. Tu vois la montre. Là, rien qu'à cause de ça, les gens regardent. Et puis, on dit l'onction. Donc, quand il te fait ça, là, en fait, ce n'est pas la puissance de Dieu qui te fait tomber. Peut-être même c'est juste la montre que tu vois là. Ah non. Bon, il ne faut pas se moquer. Que Dieu soit glorifié dans tout ça. Amen. Chacun sert Dieu comme il le sent, comme il le pressent, comme il le voit. Chacun son truc. Dieu est dans toutes ces choses-là. Amen. Voilà, ce sont des serviteurs de Dieu. Donc, que Dieu soit honoré en toutes choses. Gloire à Dieu. Donc, il faut être sincère. Il faut être sincère. Et David nous dit dans le psaume 145, je crois, « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tout ce qu'il invoque avec sincérité. Sincérité, c'est extrêmement important. Et ce que Dieu recherche, ce sont de vrais adorateurs. Et la particularité des vrais adorateurs, c'est la sincérité. Il y a des gens qui, quand ils prient, leur prière n'est pas considérée de la même manière que les autres. Et ces gens, ce sont les vrais adorateurs. Tu vas te rendre compte que si tu as deux enfants devant toi et que l'un des enfants, c'est ton enfant, si les deux enfants demandent la même chose, la demande de ton enfant sera beaucoup plus importante que la demande de l'autre parce que c'est ton enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Même la manière dont tu vas t'occuper. Si par exemple, tu as un enfant et puis on vient déposer un enfant chez toi. Tu vas t'occuper des deux enfants, mais ton attention sera toujours, naturellement, toujours plus tournée vers ton enfant. Toujours, naturellement. Même si tu prends bien soin de l'autre enfant aussi, mais ton enfant, c'est ton enfant. Tu vois, non? Ton enfant, c'est ton enfant. Donc, Dieu, il y a des gens dans le royaume qui sont ce qu'on appelle les vrais adorateurs, les gens qui sont dans l'intimité avec Dieu. Eux, quand ils prient, le ciel s'ouvre automatiquement, le ciel bouge, parce qu'eux, ils n'ont pas la même place. Dieu ne considère pas tout le monde de la même manière. Il y a des gens dehors qui sont non-croyants, il y a des gens dehors qui sont dans les religions, il y a des gens dehors qui sont même dans les églises à caractère évangélique, etc. Mais ça ne veut pas dire que dans tout ce monde-là, il n'y a que des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont des perles rares. Ce sont des gens, quand ils prient, ce sont comme des Élie, que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Ça, ce sont des gens dangereux, les vrais adorateurs. Amen. Donc, de même, les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont des gens que Dieu... C'est ce que nous devons aspirer. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Dans notre attitude, dans notre manière d'être, quand on cherche Dieu, on doit le faire de tout notre cœur. Et Paul finit en disant ceci par rapport à ce point. Approchons-nous avec quoi? Un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Parce qu'évidemment, la sincérité est toujours accompagnée de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Avec un cœur sincère. Approche-toi avec un cœur sincère. Ne t'approche pas quand tu n'es pas sincère. Ne parle pas quand tu n'es pas sincère. Sinon, ce serait du mensonge. Gloire à Dieu. La cinquième clé pour pouvoir déclencher la puissance de Dieu dans notre vie, c'est ce que j'appelle la déclaration prophétique. Dis avec moi la déclaration prophétique. Oh oui. Il y a une autre clé qui nous permet d'activer la puissance de Dieu, c'est la déclaration prophétique. Dis encore avec moi la déclaration prophétique. Qu'est-ce que la déclaration prophétique? La déclaration prophétique, ce sont les déclarations que nous faisons sur nous-mêmes. Les paroles qui sortent de nos bouches. Les paroles de notre bouche ont une puissance. Et si nous ne savons pas les utiliser par la prière, on peut souffrir inutilement. Parfois, il faut savoir ouvrir sa bouche et parler. Pas pour se plaindre, mais pour commencer à déclarer des choses. Il y a des situations dans la vie, tu ne comprends pas, mais il y a des oppositions, il y a des blocages, tu ne sais pas, mais tu dis, mais c'est quoi le problème en fait? Et puis au lieu de, oh Dieu, vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Oh Dieu, pourquoi? Dieu te regarde, il parle. Parle à la situation. L'une des puissances que les enfants de Dieu reçoivent, tout à l'heure je vais parler des différentes catégories de puissances. L'une des puissances que l'on reçoit dès notre nouvelle naissance, c'est la puissance de parler aux circonstances. Les enfants de Dieu, les chrétiens, en Christ, affermis, ils ont ce pouvoir-là, de parler à une situation. Vous savez ça? Oui? Même, tu es là, et puis il commence à pleuvoir. Tu peux dire, au nom de Jésus, qu'il arrête de pleuvoir. S'il n'arrête pas de pleuvoir, les gens vont te trouver bizarre. Mais tu as le droit de faire ça? Ça fait partie de ton héritage. Jésus-Christ parlait aux arbres. Vous n'avez pas remarqué? Il parlait à la tempête. Il parlait aux poissons. Il dit à Pierre, jette le filet de ce côté. Dès que Pierre jette... En fait, pendant que Pierre était en train de jeter, il a juste fait ça. Et les poissons sont venus. J'ai l'image comme ça. Mais les enfants de Dieu, qui sont à l'exemple parfait de Jésus-Christ, peuvent parler aux circonstances. La Bible nous donne des images pour nous enseigner. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne que nous pouvons parler. Et les déclarations prophétiques, ce sont des déclarations que l'on fait sur notre vie, des déclarations positives, des déclarations où on annonce des choses par rapport à notre vie. N'attends pas toujours que Dieu annonce des choses. Parfois, tu peux juste prendre la parole de Dieu et puis tu dis, cette parole, je l'applique à ma vie. Tu enlèves le nom de David, tu mets ton nom. Tu enlèves le nom de Jésus, tu mets ton nom. Celui-ci est mon fils, Jésus, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand tu pries, celui-ci est mon fils, Lucondias, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutons-le. Amen. Donc les déclarations prophétiques sont des déclarations positives. Quand on prie, il faut savoir parfois prendre le temps. Il y a les temps où tu rends grâce à Dieu. Il y a les temps où tu soupires après Dieu. Il y a les temps où tu adores Dieu. Il y a les temps où tu brises, tu déchires, tu casses, tu arraches, tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il y a des temps où tu prends ta vie et tu déclares. Si tu en manques d'inspiration, prends le temps d'abord d'écrire les paroles. Tu as un papier, tu écris. Et puis à haute voix, tu commences à parler sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis prospère à tous égards, en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la misère ne sera jamais attachée à mes pieds. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je suis heureux sur terre. Je réussis dans tout ce que je fais. Je prospère dans tout ce que je fais. Ma famille est en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Le malheur ne viendra jamais frapper à ma porte. Et même s'il osait venir frapper à ma porte, la grâce de l'Éternel qui m'environne comme d'un bouclier me gardera en bonne santé, moi et toute ma famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que mes enfants réussissent dans leurs études. Ils réussissent dans tout ce qu'ils font. Ils sont les plus intelligents à l'école. Moi, je dis tout le temps, ma fille est la plus intelligente de sa classe. Elle est la meilleure. Elle a des notes qui surpassent toutes les notes des autres, au point de créer la confusion parce qu'elle a des très bonnes notes à son jeune âge. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'elle est bénie de la bénédiction de Christ qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. Il faut prendre le temps de déclarer des choses comme ça. Tu déclares. Déclaration prophétique. Psaume 81, au verset 10, la Bible nous dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre quoi ?» Ta bouche et je la remplirai. Ouvre la bouche. Chaque fois que nous ouvrons la bouche, nous déclenchons une puissance. Cette puissance, elle peut être positive, elle peut être négative. C'est pour ça que tu dois faire très attention, non seulement aux paroles que tu prononces, mais aussi aux paroles que l'on prononce sur toi. Et tu dois aussi faire très attention aux gens qui, au lieu de prier, passent plus leur temps à se plaindre. Je vais te dire quelque chose de très important. Quand tu rencontres quelqu'un qui se plaint, éloigne-toi vite parce qu'il y a une poisse qui est en train de tomber dans la place et tu risques d'en prendre une partie. Dès que quelqu'un se plaint ou dès que quelqu'un est en train de critiquer de la mauvaise manière, éloigne-toi. Dis, toi et moi, là, on n'a pas le même esprit. Tu vois, non? Les plaintes, ça attire la poisse. Les plaintes, ce sont des ondes négatives. C'est pour cela que le monde va aussi mal. Quand vous allumez la télévision ou bien les journaux, c'est tout le temps les gens sont en train de se plaindre. Les Gabonais passent plus leur temps à se plaindre. Oh, Gabonais, ça ne va pas. Il n'y a plus d'argent dans le pays. Le pays est à terre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que le pays était à terre? D'ailleurs, cette expression, le pays est à terre, ça veut dire quoi même? Toi, là, regarde, tu peux être à terre, mais le pays n'est pas à terre. Le monde est monde depuis qu'il est monde. Tu es né, le monde était là. Quand tu partiras, le monde sera encore là. Tu vois, non? Donc, le peu de temps que tu as là sur la terre, là, débrouille-toi simplement pour faire tout pour réussir et prospérer et être heureux. Ne t'occupe pas des gens. Oui, mais c'est à cause d'eux qu'on souffre. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas l'eau. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas l'électricité. Qui t'a dit ça? Isaac avait la sécheresse dans son pays. Lis la Bible. Le temps d'Isaac, c'était une grande crise économique, au point où tout le monde avait décidé d'aller vivre en Égypte. Et au moment où Isaac se lève pour aller vivre en Égypte, comme les autres, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu vas où? Reste ici. Mais Seigneur, ici, il y a la sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il dit, reste ici et en plus, sème. Isaac sema. et il récolta au centuple ce qu'il avait semé et il devint très riche. Où est-ce que je veux dire? Crise économique. C'est pas parce qu'il y a crise économique que tu ne peux pas prospérer. C'est pas parce qu'il y a crise économique que tu peux pas prospérer. Oh, c'est compliqué, c'est dur, il n'y a pas de boulot, etc. Mais crée ton propre boulot. Crée ton propre boulot. Il n'y a pas de boulot. Bah, écoute, crée ton boulot. Crée une entreprise. Fais des choses. Ouais, mais c'est très facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Ça, c'est ce que tu crois. Tant que tu continueras de croire cela, c'est ce que tu récolteras. Parce que tu dis que ce n'est pas possible, alors tu n'y arriveras pas. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai oublié le nom de cet auteur, j'avais lu ça dans un livre, qui a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ils ne savaient pas que c'était impossible à faire, alors ils l'ont fait. Si on leur avait dit que c'était impossible à faire, on leur aurait injecté une information qui les aurait bloqués, poussés à abandonner. Mais ils ne savaient pas, alors ils l'ont fait. Un enfant ne sait pas que c'est impossible de ramener la lune à la maison, alors il le demande à son papa. Papa, amène-moi la lune. Si demain, tu viens, tu dis à Noé, Noé, demain, peu importe, je te ramène la lune, ici, là. Il va te regarder, il va dire, oh, c'est vrai, tu peux faire ça. Oui, tu vois ça, je peux te ramener ça. Ok, demain matin, tu vas voir, il va venir te voir, il va te dire, où est ma lune? Parce que lui, il pense, il ne sait pas que c'est impossible. Pour lui, c'est possible. Amen. Oui, c'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir la foi des enfants. La foi des enfants. Donc, dès que tu vois quelqu'un qui passe son temps à prononcer des paroles négatives, éloigne-toi. Toi, tu dois être dans le prophétique. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui marche dans le prophétique. C'est quelqu'un qui marche par la foi. Tout ce qu'il fait, c'est un pas de foi. Chaque pas qu'il pose, c'est un pas de foi. Même quand c'est difficile, même quand c'est compliqué, tu dois toujours t'attendre à ce que Dieu... Moi, ça m'arrive parfois de douter. Ça m'arrive parfois d'avoir des doutes par rapport à certaines situations, par rapport à certains projets. Mais quand je retourne dans la prière, que je recommence à penser à Dieu, Dieu me rappelle qui il est. Il te pose la question, qui je suis ? Non, dis-le un peu de ta bouche. Je suis qui? Quand Dieu vient voir Abraham, il dit à Abraham, Abraham, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Regarde Abraham. Abraham dit, Dieu, je suis avancé en âge. J'ai 99 ans. Et ma femme Sarah ne peut plus avoir d'enfant. Il commence à se plaindre. Et il commence à déclarer des choses qui peuvent bloquer la situation. Et Dieu lui dit, qui je suis? Regarde ce que Dieu rajoute après. Dieu rajoute, Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Mon nom, c'est Tout-Puissant. C'est ce que ça veut dire, Tout-Puissant. Ça veut dire que rien n'est impossible, rien. Rien. Donc, avant qu'on deal, toi et moi, avant qu'on signe le contrat, là, toi et moi, notre alliance, là, je veux que tu saches qui je suis. Dis avec moi, il est le Dieu Tout-Puissant. Et dis encore avec moi, c'est mon Dieu. Avant qu'on deal, toi et moi, voici le Dieu avec qui tu as signé une alliance. Le Dieu des impossibilités. Et le problème que Dieu a avec nous, c'est qu'on ne croit pas. Quel est le verset le plus court de la Bible? Quel est le verset le plus court de la Bible? Le verset le plus court de la Bible, c'est « Jésus pleura ». Juste avant la résurrection de Lazare. Vous connaissez? Pourquoi Jésus pleura? Parce que quand Jésus vint, Marie vient d'abord, « Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Marie, je suis la résurrection. Celui qui croit en moi ne peut pas mourir. Lazare va ressusciter. Et il entend les voix autour. « Oh, pourquoi l'a-t-il laissé mourir s'il avait été là, etc., etc. » C'est le Dieu des impossibilités, mais on ne croit pas en lui. Après tous les merveilleux miracles qu'il a fait, les gens ne croyaient toujours pas en lui. Marthe arrive, elle dit, « Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. » Jésus pleura. La Bible dit juste avant que Jésus-Christ fut attristé et il pleura. Il ne pleurait pas parce qu'il était triste, parce que Lazare était mort. Il savait que Lazare allait ressusciter. Il pleurait parce qu'il voyait les gens ne pas croire en lui. Voici ce qui mine le cœur de Dieu. On passe plus notre temps à nous plaindre et à déclarer des paroles semblables à celles de Job, au lieu de dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas le faire. Je ne sais pas comment, mais tu vas le faire. Amen. Voici le Dieu auquel on doit croire. Et regardez quand il ressuscite Lazare, regarde ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, non pas à cause de moi, car je sais que moi, tu m'exauces toujours, mais à cause d'eux. Fais grâce et ressuscite Lazare. Lazare, sort. Voici le Dieu auquel nous devons croire. Nous croyons, voici le Dieu que nous servons. Amen. Dieu dit à quelqu'un qui passait son temps à se plaindre, Job, au chapitre 38, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, des plaintes, quoi ?» S'interrogeant comme un vaillant homme, hein, dis avec moi, sois vaillant. Je t'interrogerai et tu m'instruiras, tiens donc. Hein? La version française courante dit, « Qui es-tu pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores ?» Hein? Tu parles, toujours en train de te plaindre. C'est à cause de ça que mes desseins sont bloqués dans ta vie. Tu passes ton temps à annuler mes desseins à cause de tes paroles négatives. Cesse de te plaindre et commence à faire des déclarations prophétiques dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et face à toute situation difficile, quelle que soit la situation, même quand tu ne maîtrises pas, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale ou autre, ton réflexe toujours, ce ne doit pas être de te plaindre, mais de commencer à prier et de déclarer des choses sur la situation. Seigneur, au nom de Jésus, je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible entre tes mains. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire. Oui. Mon épouse et moi, en ce moment, nous sommes sur un projet où on a besoin de plus de 300 millions de francs CFA. Alors, demande-moi où est-ce qu'on va trouver cet argent. Parce que c'est beaucoup. Donc, moi, quand j'ai vu le montant, quand le montant a résonné dans mon esprit, qu'est-ce que j'ai fait pour rester bien focalisé sur ce montant-là, pendant que j'avais prié, j'ai écrit ça sur un papier, j'ai imprimé, d'accord? J'ai passé une heure avec le papier là sur la table et puis j'ai prié. J'étais là, je parlais en regardant le montant. Et puis j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, je possède ce montant. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'ai dit, au nom de Jésus, je possède ça. Il faut que je possède ça pour pouvoir réaliser ce projet. Il faut que je le possède. Mais si tu ne mets pas Dieu à l'épreuve, c'est pas ce qu'il dit dans Malachie 3. Mettez-moi à l'épreuve. Je sais que par toi-même, tu ne peux pas avoir ça. Donc, je t'annonce une chose. Tant que tu as la marge de pouvoir agir et faire encore quelque chose, Dieu n'interviendra jamais. C'est quand tout devient humainement impossible que là, Dieu commence maintenant à rentrer dans l'histoire. Tant que toi-même, tu as la possibilité de faire encore quelque chose, Dieu n'intervient pas. C'est quand tu es dos au mur que tu ne peux rien faire que l'âme non Dieu peut faire. Il y a des percées, des portes qui doivent s'ouvrir. Hein? Tu sais que là, ton charisme, ton CV, tu sais que là, la porte ne va pas s'ouvrir. Parce que tu n'es naturellement pas la bonne personne. Mais pour Dieu, tu es la bonne personne. Ouais. Et là, les gens viendront juste dire, « Gars, explique-nous comment tu as fait. » Tu es rentré ou comment? Comment tu as fait? Comment? Non, faut que tu dises, non, mais c'est Dieu. Non, arrête les histoires. Comment tu as fait? Dis-nous. Comment? Ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. Pour finir avec ce point-là, il y a trois types de déclarations prophétiques. La première, c'est déclarer la fidélité de Dieu dans sa vie en toutes circonstances. Déclarer la fidélité de Dieu. C'est-à-dire, quand tu pries, tu prends le temps de rappeler à Dieu sa fidélité. Le psaume 89 au verset 1 dit « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. » Et face aux situations, rappelle à Dieu sa fidélité. Rappelle-lui sa fidélité. Et quand tu fais cela, tu déclares à l'avance ce que Dieu va faire. Tu ne déclares pas, c'est-à-dire tu utilises son nom. Dieu a dit « Mon nom c'est Je suis ». Donc, si par exemple tu es malade, au lieu de dire, Seigneur, guéris-moi. Ou bien, Seigneur, merci parce que tu vas me guérir. Dis, Seigneur, merci parce que je suis guéri. Ça, c'est une parole de foi. Seigneur, merci parce que je suis guéri. Quand tu as peur, dis merci Seigneur parce que tu es mon assurance. Quand tu souffres dans ton cœur, dis merci Seigneur car tu restaures mon âme. Merci Seigneur car tu es pour moi un ami fidèle. N'utilise ni le passé ni le futur, utilise le présent. Parce que le présent signifie qu'il est, il le fait là. Il le fait là. D'une certaine manière, il l'a déjà fait, oui. Mais Dieu dit, mon nom, va leur dire, c'est je suis. Trois petits points. Je suis qui pour toi? Je suis qui pour toi? Je suis ta guérison, alors sois guéri. Je suis ton assurance, sois rempli d'assurance. David dit dans le psaume 23:1, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Psaume 145 au verset 21, que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Voici les déclarations que David faisait. Et quand il faisait ces déclarations-là, il les faisait dans des situations compliquées. La deuxième déclaration prophétique importante, c'est rappeler à Dieu, plutôt rappeler les bienfaits de Dieu à son âme. Dis avec moi mon âme. L'âme, c'est le siège de nos émotions et de nos pensées. C'est pour cela qu'on doit faire très très attention à notre âme. Si ton âme est attristée, si ton âme est malade, je t'assure, tu montes, tu descends, tu ne peux rien faire. Parce que l'âme fait partie de toi. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce qui entre dans notre âme. Ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on entend, les paroles qu'on nous injecte, voire même ce qu'on dit. Dès que notre âme est attristée ou dès que notre âme est touchée, automatiquement, ça nous déstabilise. Du bon ou du mauvais côté. David dit dans le psaume 103 au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Là, là, quand il prononce cette parole-là, le gars, il est mal. Mais il parle à son âme. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'esprit, à l'image de Christ, on doit apprendre à parler à notre âme. Parce que l'âme, elle est changeante. L'âme, elle se déstabilise très vite. L'âme, elle change d'humeur. Un matin, tu te lèves, tu es en joie. Un autre matin, tu vas te lever, tu ne sais plus pourquoi tu n'es pas en joie. Ça, c'est l'âme. Et il faut savoir parler à l'âme. Moi, par exemple, les matins où je suis en train de partir en ville, et puis je sens dans mon esprit que je ne suis pas joyeux, en fait. Je ne suis pas joyeux. Tu vois, comme souvent le matin, comme parfois, comme certaines personnes le matin, tu es... T'as pas juste envie, t'es pas énervé non plus, quoi, mais qu'est-ce que je fais? Je prends mon gros casque et puis je mets à fond les chants de louange. Tu es le Dieu victor. Et là, je retrouve le sourire. Parce que j'impose ça à mon âme. J'impose ça à mon âme. Amen. C'est très important. Mon âme bénit l'Éternel. David nous dit encore dans le psaume 42, mon âme. Pourquoi t'as battu et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Et il faut savoir se parler à soi-même par des déclarations prophétiques. Amen. Et enfin, la troisième déclaration prophétique, c'est celle que l'on fait dans l'adoration. L'adoration prophétique. L'adoration prophétique, il s'agit simplement de prophétiser sur soi-même, sur sa propre vie, mais cette fois-ci par le chant. Et je t'assure qu'il y a des fois où il y aura des situations où tu n'auras pas la force de parler. Il y a des situations qui seront tellement difficiles que tu n'as juste pas la force de parler. On te dit, mais il faut prier, non? Oh, tu sais, parfois, il y a beaucoup de chrétiens, ils ont des indélicatesses. Tu viens, tu as perdu quelqu'un, tu es dans un état d'esprit où tu es choqué, où tu as vraiment mal. Et puis, viens, tu sais, mon frère, il faut juste prier, hein, ça va aller. Oh! Tellement spirituel. Les choses... Non, il ne faut pas juste parler. Il y a des fois, il y a juste des situations, il faut juste te mettre à côté de la personne et tu lui fais juste, ça va aller. Ça va aller. Ah, mais ça va aller, ce n'est pas écrit dans la Bible. Oh, laisse-nous. Ça va aller. Ça va aller. Dieu est là. Dieu est là. Gloire à Dieu. Amen. On va aller, la sixième clé. Ah, celle-là, elle est très importante. La sixième clé, c'est la prière en langue. Dis avec moi la prière en langue. Ouais, la prière en langue. Il y a une puissance dans la prière en langue. On reçoit le parler en langue quand on est baptisé du Saint-Esprit. Et tout comme la déclaration prophétique, il y a aussi une puissance dans le parler en langue. Paul nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre, je retrouve le verset, 14 au verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et la version parole vivante nous dit, celui qui parle en langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous quoi? L'inspiration de l'Esprit. Beaucoup de gens, pour ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui savent parler en langue, beaucoup ne parlent pas en langue. Parler en langue, c'est quelque chose de très important dans la vie chrétienne. Le parler en langue nous accorde plusieurs bénéfices. Un, parler en langue permet d'exprimer les pensées profondes de notre cœur à Dieu, que lui seul peut comprendre. Amen. Deux, parler en langue favorise l'inspiration du Saint-Esprit. Trois, parler en langue augmente notre imagination et notre créativité. Quand tu travailles, quand tu fais des choses, parle beaucoup en langue. Moi, quand je travaille, je parle beaucoup en langue. Je suis tout le temps en train de parler en langue, tout le temps, sans faire beaucoup de bruit. Et quand tu parles en langue, tu reçois des choses. Tu reçois des choses. C'est spirituel, le parler en langue. Ça n'a rien de religieux. Parler en langue, quatre, fortifie notre homme intérieur quand on est faible. Quand tu as mal ou quand tu te sens faible et tu n'as pas la force de prier, parle en langue. Parle beaucoup en langue. Et tu vas te rendre compte que quand tu pries en langue, tu reçois des choses. Tu reçois des choses. Et tu sens qu'à l'intérieur de toi, ça te fortifie. Parce que tu sens que spirituellement, il est en train de se passer quelque chose en toi. 5. Parler en langue permet aussi de se connecter à la fréquence divine Dieu FM pour capter et recevoir ses pensées. Vous connaissez cette fréquence Dieu FM, hein? C'est la fréquence du ciel. Ici, sur Terre, il y a beaucoup de radios. Au ciel, il n'y a qu'une seule radio, on l'appelle Dieu FM. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 55 que mes pensées sont au-dessus de vos pensées et mes voix sont au-dessus de vos voix. Donc, pour capter les pensées de Dieu, là, il faut capter Dieu FM. Et pour pouvoir capter Dieu FM, c'est par le parler en langue, la prière en langue. Amen. Parler en langue nous permet d'entendre la voix de Dieu. 6. Parler en langue aiguise notre discernement spirituel. Tu vas te rendre compte que quand tu commences à beaucoup parler en langue dans ta vie, spirituellement, tu ressens plus les choses. Ton discernement spirituel est beaucoup plus aiguisé. Tu vois quelqu'un, tu ne le sens pas. Mais quand tu es trop charnel, là, quand tu es trop charnel, des choses vont te passer sous les yeux. 7. Parler en langue active la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Paul nous dit au verset 3, 1 Corinthiens 14, verset 3, regardez ce qu'il dit, parce que là, Paul était en train de répondre au parler en langue. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire ici, en ce qui concerne le parler en langue? Paul est en train de nous dire que quand il s'agit de l'Église, la prophétie c'est mieux. Hein? Quand il s'agit de l'Église, prophétiser c'est plus avantageux parce que tout le monde comprend ce qui est dit. Et il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue quand il s'agit de l'Église. Mais quand il s'agit de toi-même, parler en langue, c'est exactement la même chose. Si tu parles en langue à l'Église et que l'Église, on arrive à interpréter ce que la personne a dit en langue et que l'Église comprend, alors là, prophétie ou parler en langue, c'est le même niveau, c'est la même chose. Parce que l'Église a compris l'interprétation. Amen. Mais quand ce n'est pas interprété, là, Paul dit, il vaut mieux prophétiser. Mais de manière individuelle, en ce qui te concerne par rapport à ta propre vie, le parler en langue est tout aussi important, voire meilleur. La déclaration prophétique, déclarer des choses positives sur sa vie, c'est bien, c'est très important même. Mais le parler en langue, c'est encore mieux. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire avec moi gloire à Dieu? Donc, parler en langue est quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça favorise la communication avec le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Comment tu fais pour prier sans cesse? En parlant en langue. Comment tu fais pour rester toute la journée en train de prier alors que tu as des activités, tu as des gens en face de toi, tu dois parler, etc. Tu parles en langue. Quand tu es dans les transports en commun, par exemple le taxi, ou bien tu es quelque part en ville, dès que tu vois quelqu'un, par exemple, qui est comme ça là, dis-toi, lui, il est en train de prier en langue. Lui. Souvent, tu vois beaucoup de chrétiens comme ça. Discrètement, ils sont là. Tu vois la bouche qui bouge un peu. Normalement, moi, je parle du principe qu'un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu converti, c'est quelqu'un qui doit tout le temps la bouche être en train de bouger. Tout le temps. Il est là, il travaille au bureau. Tout le temps. Si la bouche ne bouge, maintenant, quand on va se voir, on va maintenant se surveiller les uns les autres. On va regarder si nos bouches bougent. Hein? Tout le temps, la bouche doit être en train de bouger. Tout le temps, on doit être en train de prier en langue. C'est très important. Donc, j'ai envie de dire que aujourd'hui, je déclare que ta vie de prière, par le parler en langue, passe à une autre dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, alors que Dieu t'accorde la grâce d'être baptisé du Saint-Esprit et que tu puisses expérimenter aussi les joies du parler en langue au nom de Jésus-Christ. Et si tu reçois ça, dis avec moi, Amen. Amen. Et acclame le Seigneur. On a bientôt fini. On a bientôt fini. La septième clé. Ah, celle-là. Celle-là. La septième clé pour déclencher la puissance de Dieu dans sa vie, c'est le pouvoir de donner. Ou encore de semer. Dis avec moi le pouvoir de donner. Donner. Il y a une grande puissance dans la capacité à donner ou encore à semer. Le pouvoir, la puissance de la semence. Le pouvoir de donner est ce qui provoque le pouvoir de recevoir. Si tu veux recevoir, apprends à donner. Si tu veux recevoir de grandes choses, apprends à donner d'abord. Tu ne peux pas recevoir sans d'abord donner quelque chose. C'est un principe que Jésus a passé son temps à enseigner à ses disciples. Et quand tu veux obtenir quelque chose, quel que soit le domaine, apprends à donner. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit financier, apprends à donner. Regarde ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens, je ne sais plus, je ne l'ai pas noté. 1 Corinthiens 9 au verset 6, rappelez-vous ceci, celui qui sème peu, récoltera peu. Celui qui sème beaucoup, récoltera beaucoup. Beaucoup de gens. Beaucoup d'entre nous, on veut recevoir beaucoup de choses dans la vie. Que ce soit spirituel, matériel, on veut recevoir des choses, mais on donne peu. On donne peu. Quand tu as un projet ou quand tu aspires à quelque chose et que tu veux l'avoir absolument, mais tu sais que tu n'as pas encore les moyens de l'avoir, tout de suite, sème quelque chose. Semer doit être une habitude naturelle et automatique chez nous. Semer, c'est très important. Que ce soit semer de l'argent, que ce soit semer du matériel, semer des paroles. Quel que soit le projet, sème. Tu peux aussi semer dans la vie de quelqu'un. Si par exemple tu vois quelqu'un qui a des grâces et des bénédictions que toi tu aimerais avoir dans ta vie, sème dans sa vie. Il n'est pas obligé de s'appeler pasteur. Sème dans sa vie. La semence est une puissance. Le fait de donner tout ce que tu veux, avoir, donne. Donner est une puissance, c'est une loi majeure dans le royaume de Dieu. Si tu veux une récolte, tu dois planter avant. Si tu veux de l'amour, tu dois en donner d'abord. Si tu veux un enfant, tu dois semer dans le sein de ton épouse et qui concevra un bébé. Si tu veux de l'argent, tu dois savoir investir du temps, du travail et de l'argent aussi. Et tout ce que tu désires dans la vie requiert toujours une semence préalable. Amen. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont dans la pauvreté. Ils ne s'aiment pas. Le pauvre est quelqu'un qui ne s'aime pas. Et vous savez pourquoi c'est difficile encore pour le pauvre? Parce qu'en général, il a du mal à semer parce qu'il n'a rien. Et même quand tu lui dis « sème quelque chose » et qu'il dit « j'ai envie », il va te dire toujours « je n'ai rien ». Il n'y a que Dieu qui peut venir lui dire « tu as quelque chose ». Tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Les disciples disent « Seigneur, envoie la foule ». Ils disent « mais donnez-leur même à manger ». On n'a rien. Si, vous avez quelque chose. Heureusement qu'il y avait un petit garçon qui avait compris l'astuce et qui avait gardé un peu de poisson et de pain avec lui. Sinon, les gars auraient été mal. Dis avec moi la semence. Luc 6. Ah, je ne sais plus où est-ce que j'ai noté ça. Luc 6, au verset 38, dit « Donnez et il vous sera donner. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, et qui secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici? Qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est que la puissance de Dieu est déversée dans la vie de quelqu'un en fonction de ce qu'il a semé. C'est ce que ce verset nous dit. La grâce, les grâces que tu vas expérimenter avec Dieu dans ta vie vont être déterminées par la qualité de ta semence, par ce que tu auras semé. Plus tu sèmes, plus tu donnes et plus tu vas récolter en retour. Vous me suivez? Plus tu donnes, plus tu vas récolter en retour. Et ce principe est valable dans tous les domaines. Même dans le domaine financier. Particulièrement dans le domaine financier. Tiens, arrêtons dans le domaine financier un peu. Si tu veux attirer... Hier, j'étais avec quelqu'un et puis on a commencé à parler d'argent. On a commencé à parler de richesse. Et je lui disais, mais l'argent, les gens veulent l'argent, non? Les gens veulent l'argent. Les gens veulent avoir plus d'argent dans leur vie. Mais ils n'en donnent pas beaucoup. Ils s'aiment peu, mais ils veulent beaucoup d'argent. Si tu veux attirer l'argent ou encore la richesse dans ta vie, tu dois apprendre à semer beaucoup dans la vie des autres. Si tu es quelqu'un qui sème et qui investit beaucoup dans la vie des gens, en retour, je t'assure, ils vont être très heureux de te donner de l'argent. C'est pour cela que un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelait Zig Ziglar, paix à son âme, aimait dire une phrase en disant « Si vous voulez avoir tout ce que vous désirez dans la vie, donnez aux gens tout ce qu'ils veulent dans leur vie. » Si tu apprends toujours à donner aux autres, si tu apprends à semer, particulièrement spirituellement, dans la vie des gens, en retour, Dieu va te bénir méchamment. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est un principe très important. C'est pour cela que investir dans le capital humain est le meilleur investissement. Investir dans les hommes, c'est le meilleur investissement parce que ces hommes-là vont te le rendre en retour. Plus tu aides les gens à obtenir ce qu'ils désirent, plus tu obtiens en retour la faveur et le succès. Et il y a une grâce et une grande bénédiction quand on devient une source de bénédiction. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau où on est béni, hein? Et il y a le niveau où on commence à bénir les autres. Où est-ce que je veux dire? Et par exemple, en ce qui concerne l'entrepreneuriat est une loi. L'entrepreneuriat est une loi. Beaucoup de gens ont un problème avec les affaires. Ils ne comprennent pas que s'il y a bien une loi qui nous permet de créer de la richesse, c'est l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est discerner un problème chez quelqu'un ou dans une entreprise et apporter la solution. Et quand tu apportes la solution, on te donne de l'argent en retour. Oui, mais ce n'est pas facile. Qui t'a dit ça? C'est facile pour quelqu'un. On t'a dit que c'est difficile pour quelqu'un de sortir de l'argent de sa poche. Si tu apportes la solution, il va te payer. Oui, mais je n'ai pas d'idée. Ben, trouve une idée. Un véritable entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne se lance pas obligatoirement dans un domaine qui le passionne. Même s'il va s'efforcer à être passionné du domaine dans lequel il s'est lancé. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde d'abord le besoin. Et s'il y a un besoin, il apporte la solution et là, on lui donne de l'argent en retour. Amen. Il s'adapte. C'est pour ça qu'un entrepreneur, un vrai entrepreneur, il ne peut jamais être pauvre. Tu peux l'envoyer dans n'importe quel pays. Le gars, il va dire, écoute, là, je vais faire de l'argent. C'est un caméléon. Il s'adapte à son environnement. Parce que dans quel que soit l'environnement dans lequel on va le planter, il y a toujours des problèmes. Donc, lui, il va juste trouver le problème. Son défi, ce sera de trouver les moyens pour pouvoir lancer l'activité. Mais s'il arrive à trouver les moyens pour lancer l'activité, il va faire de l'argent. Pourquoi certains peuples sont toujours riches et d'autres sont toujours pauvres? Ah! Tu vois des gens, je n'ai pas envie de dire leur nom, ça commence par L. Ils arrivent dans notre pays, en même pas 6 mois, tu vois, il a déjà consommé un magasin. Mais tu dis, comment il a fait? Comment ils ont fait? Ça, c'est quel réseau, ça? Le Gabonais est là, un peu hébété. Oh, mais on est là depuis, on n'a pas fait. Comment ils font? Toi, tu rentres de France, dès que tu rentres avec ton gros diplôme à la main, et puis tu dis, frère, tu fais quoi? Je suis en train de chercher le travail. Je cherche le travail. Je cherche le travail. Le L, lui, quand il arrive, gars, il ne cherche pas le travail. Lui, il va t'embaucher. Lui, il va t'embaucher. Il ne cherche pas le travail. Vous voyez combien de L dans les entreprises ici qui travaillent avec le gouvernement? Vous en voyez beaucoup. En général, on les voit plus derrière les comptoirs en train de gérer leur commerce. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Même si c'est... Attends, vous n'avez pas remarqué, en ce moment, à Ngondje, il y a un mouvement en ce moment de jeunes L là, qui se baladent dans les maisons, qui font du porte-à-porte avec des marmites. Vous n'êtes pas, ils ne sont pas venus cogner chez vous. Il y en a trois qui sont déjà venus cogner chez nous. Il y en a, ils sont venus, ils étaient dans une vieille voiture. Il dit, mon frère, ça va mon frère? Tu vas acheter le poisson frais? Poisson frais. Mais quand j'ai vu l'état de l'arrière, j'ai dit, gars, je ne peux pas acheter mon poisson ici, là. Mais lequel il fait son business? Il vend son poisson frais. Et tu le vois maison après maison. Je vois un autre quelques jours après, lui, il avait un gros carton de marmite sur son épaule et puis une autre dans l'autre main. Et puis il dit, mon frère, il ne parlait même pas bien français. Marmite, tu veux marmite? Marmite. Lui, il fait du business, mon ami. Il n'est pas là pour... Il sait juste que ça, là, on lui a donné ça pour aller vendre ça. Quand il va avoir l'argent, il va donner la partie, la com au propriétaire et lui, il prend sa com. Mais il n'est pas en train de dire, je dois aller chercher du travail. Donc, voilà pourquoi j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Et c'est la sagesse de Dieu qui veut ça. C'est qu'il ne faut pas courir après l'argent. Hein? Il ne faut pas courir après l'argent. Il faut courir après la parole de Dieu. Et tu acquerras la sagesse pour pouvoir créer et faire de grandes choses avec le Seigneur. Si Dieu veut, il te fera grâce et il te donnera aussi la richesse. Mais si tu veux avoir la richesse, apprends à donner et à semer et à être une grande source de bénédiction pour les gens. Beaucoup, la plupart des chrétiens que vous rencontrez dans les églises sont les gens qui se contentent du premier niveau, c'est-à-dire à chercher à recevoir de Dieu. Mais très peu cherchent à être des sources, des canaux où ils vont donner, des canaux où ils vont donner. C'est à ça qu'il faut aspirer. Il ne faut pas aspirer à avoir juste de l'argent et puis tu es dans ton confort. Il faut aspirer à avoir de l'argent pour Dieu et pour pouvoir bénir les gens. Construire des hôpitaux. J'étais en train de regarder une émission politique il y a quelques jours, cette semaine à la télévision, et puis un homme politique du pays était en train de parler. Et puis là, il y a quelqu'un, il était dans un Mapan de Libreville. Et puis quelqu'un fait, mais monsieur, vous êtes là, vous parlez beaucoup, vous tirez sur le pouvoir en place, tout ça, ok, on a compris. Vous êtes milliardaire, non? Non, non, attendez, répondez-nous. Vous êtes milliardaire ou pas? Parce que c'est avéré que vous êtes milliardaire. Le gars répond, oui, je suis milliardaire. Ah! Vous avez vu nos conditions ici, là? Vous êtes milliardaire? Dieu ne te demande pas de nous donner ton milliard ici, là, aujourd'hui. Mais par contre, je te demande, quel est l'hôpital que tu as construit? Je vous demande, est-ce que vous avez pu construire une école, ne serait-ce que dans votre ville natale en province? Est-ce qu'il y a une école qui porte votre nom? Est-ce que vous avez un hôtel à votre nom? Donc, tous vos milliards, concrètement, ma question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous en faites? Il était là seulement. Alors, le pouvoir en place... Non. Réponds-nous. C'est bien beau de venir tout le temps critiquer. Donc, tu es quelqu'un qui critique beaucoup. Et si on t'écoute, on risque nous aussi de recevoir notre portion de poisse aussi avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si vraiment tu veux changer les choses, avant de commencer à critiquer ce qui se passe dans le pays, commence d'abord toi-même à faire tes preuves avec tous les milliards que tu as. On a encore entendu l'actualité cette semaine, hein, une grande figure politique de notre pays qui a été attrapée avec la machine chez lui, maintenant il est au Niouf. Vous avez tous entendu ça, non? Hein? Mais lui là, vraiment, même si c'était les faux billets, mais avec les faux billets là, il fallait quand même construire quelque chose. Les gars là me dépassent, c'est impressionnant. Ils ont beaucoup de faux billets, mais ils ne font rien avec. Argent mal acquis ne profite à personne. Amen. Eh oui, ainsi va la vie. Donc le plus important, c'est de courir après le cœur de Dieu, de courir après sa sagesse. Si tu trouves Dieu, si tu saisis le cœur de Dieu et sa pensée, il va te donner la sagesse. Et avec la sagesse, tu vas créer des choses. Avec la sagesse, tu pourras faire de grandes choses. Et là, quelqu'un a dit, fais de l'éternel tes délices et te donnera tout ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur doit désirer le cœur de Dieu. Pas l'argent. Si tu désires le cœur de Dieu, Dieu va te révéler sa sagesse. Dieu va te révéler un certain nombre de choses et là, tu vas pouvoir créer. Et en créant, en bénissant les gens, en étant un acteur économique dans ton pays, là, tu auras de la richesse. Amen. Ouais, c'est ainsi qu'il faut le comprendre. Et c'est pour cela que Salomon nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction qui permet de bénir les autres. Et c'est ça qu'il faut chercher. La huitième clé, et on va finir avec ça, et celle-là, c'est la clé des clés. C'est celle que j'appelle la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Au-delà de tout, c'est celle qu'il faut chercher. Tout ce qu'on a dit durant cette semaine, c'est très bien. Mais la puissance du Saint-Esprit, c'est celle que Jésus-Christ a dit à ses disciples d'attendre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire, car il est la personne la plus importante sur la terre. Non seulement on doit désirer sa présence dans notre vie, mais on doit aussi désirer sa puissance. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit dans Actes 1, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Pourquoi est-ce qu'il faut désirer la puissance du Saint-Esprit? Premièrement, pour témoigner de la grâce de Jésus et du salut aux non-croyants. C'est la première chose pour laquelle il faut désirer la puissance du Saint-Esprit. Deux, pour démontrer la réalité du royaume de Dieu aux gens. Pour démontrer la réalité du royaume. Et trois, pour démontrer aux hommes que le meilleur gouvernement, celui auquel ils aspirent le plus dans leur cœur, c'est le gouvernement de Dieu. Pourquoi est-ce que je parle du gouvernement de Dieu? Parce que le gouvernement de Dieu est celui dont les hommes ont besoin, car il est la solution à tous leurs problèmes. Vous n'avez pas remarqué que les gens dehors se plaignent tout le temps de quoi? Du gouvernement, non? Des mesures prises par le gouvernement, des manquements du gouvernement. Le monde entier, toute l'information est politisée. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent à ce que le gouvernement règle leurs problèmes. Nous sommes dans un monde où le système qui gouverne s'appelle la démocratie. La démocratie consiste à quoi? C'est à prendre quelqu'un au milieu de nous qui n'a jamais résolu nos problèmes. Et on l'élève en dignité et puis on lui dit maintenant résous nos problèmes. Ça c'est compliqué pour lui. Hein? C'est pas si évident que ça. Tu vois? Mais il y a un gouvernement. Parce que quand on regarde le monde, l'état du monde, on se rend compte que tous les gouvernements du monde rencontrent des difficultés pour satisfaire les besoins des gens. Et Dieu sachant que les hommes aspirent à un gouvernement, le gouvernement, Dieu leur donne le gouvernement. De quel gouvernement il s'agit? Ésaïe 9 au verset 6 nous est dit, il est décrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination, ou encore le gouvernement, c'est traduit en verset anglais, le gouvernement reposera sur son épaule. » Il ne dit pas un gouvernement, il dit le gouvernement, la domination. Ce gouvernement-là, c'est le gouvernement qui va apporter des solutions à tous les problèmes des gens. Amen. Et de quel gouvernement Dieu parle ici, il ne parle pas d'un gouvernement politique. Il ne parle pas d'un gouvernement qui vient des hommes. Il parle du gouvernement que Adam a perdu dans le jardin d'Éden, le gouvernement du Saint-Esprit. Amen. Dis avec moi le gouvernement du Saint-Esprit. Le gouvernement du Saint-Esprit est la première chose que Dieu te donne. Parce que c'est un gouvernement qui dirige de l'intérieur. C'est un gouvernement qui transforme et règle les problèmes de l'intérieur. Les plus grands problèmes des gens, ce n'est pas les problèmes d'argent. Les plus grands problèmes des gens, c'est qu'ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes et avec Dieu. Et la première chose que le Saint-Esprit, le gouverneur des cieux, amène dans ta vie, c'est la paix. La paix. De sorte que, quelles que soient les circonstances que tu rencontreras dans ta vie, tu seras toujours en paix. Tu as une paix divine qui t'accompagne et qui te garde. La Bible appelle ça la paix qui surpasse toute circonstance et toute intelligence. Jésus-Christ lui-même a dit, je vous donne quoi? Ma paix. Pas la paix de ce monde. Quand il dit pas la paix de ce monde, de quelle paix il parle? La paix du matériel, la paix de l'argent. Tu n'as pas remarqué que quand tu as beaucoup d'argent, tu as l'impression d'être en paix? quand tu as beaucoup d'argent, c'était compliqué. Et puis là, tu as eu une ouverture, 10 millions tombent. Ding, ding. Ah, 10 millions, papa. Ça fait du bien. Tu fais voyager madame. Tu fais avancer les travaux de la maison. Tout ça. Il y a une paix qui s'est installée dans la maison. Vous ne vous disputez plus. Tout va très bien, quoi. Tu vois. Mais cette paix-là, ce n'est pas une bonne paix. C'est la paix de l'argent. La paix de l'argent, elle part aussi vite qu'elle est venue. Mais la paix de Dieu est une paix qui demeure et qui reste. Amen, gloire à Dieu. Donc, le gouvernement, au-dessus de tous les gouvernements que Dieu nous donne, c'est son gouvernement par le Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, il se passe autre chose. Il se passe autre chose. Alors, la Bible nous montre que les disciples, et on va finir avec ça, la Bible nous montre que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Ensuite, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. D'accord ? Pourtant, on a dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une puissance, n'est-ce pas ? Alors, de quelle puissance on parle quand on reçoit le Saint-Esprit ? De quelle puissance on parle quand on est baptisé du Saint-Esprit ? Il y a une différence. Il y a une différence. Cette différence, c'est ce que j'appelle des niveaux de puissance. Dieu ne donne pas... Il y a des mesures de puissance dans la vie du chrétien. C'est ce que je me suis rendu compte dans la parole de Dieu. Le premier niveau de puissance dans la vie du chrétien, c'est ce que j'appelle recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. C'est le niveau du puits ou encore de l'eau qui te permet d'avoir ce qu'on appelle la vie éternelle et d'être inscrit dans le livre de vie. Cette eau te permet de ne plus avoir soif. C'est ce qu'on appelle le salut. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Jean, au chapitre 4, au verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » Ici, Jésus-Christ parlait du Saint-Esprit que les gens recevraient une fois qu'ils seraient ressuscités en croyant en son nom. Ça, c'est le premier niveau. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois ce premier niveau de puissance-là que j'appelle le puits. Amen. Il y a un autre niveau de puissance que l'on reçoit dans la vie en tant que chrétien. C'est celui dont Jésus-Christ parle dans Jean chapitre 7 au verset 38 lorsqu'il dit « Celui qui croit en moi, là, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore... parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Ici, Jésus-Christ est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Et en parlant du baptême du Saint-Esprit ici, il est en train de parler d'une autre mesure de puissance du Saint-Esprit. Cette mesure de puissance du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Amen. À la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. C'est le premier niveau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le deuxième niveau, c'est la deuxième mesure, c'est une mesure supplémentaire, un niveau supplémentaire. Cette fois-ci, on expérimente des grâces particulières. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas assimilé à un puits, on l'assimile à un fleuve, à une rivière. Jésus-Christ l'assimile ici à des fleuves. La différence avec le puits et le fleuve, c'est que le puits suffit pour une personne, voire quelques personnes. Le fleuve, il peut nourrir toute une ville. Le fleuve couvre plus de besoins. Donc, si on a juste reçu le Saint-Esprit, mais on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, on doit désirer le fleuve. On doit désirer le baptême du Saint-Esprit parce que quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit reçoit une puissance qui lui permet de ne plus être dans la défaite jusqu'à la fin de sa vie. Amen. C'est pour ça que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il nous dit, acte 2 au verset 1. Là, les disciples étaient déjà convertis. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, ils étaient déjà nés de nouveau. Mais là, ils se font baptiser du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Acte chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un m'a posé la question récemment, c'est quoi le baptême de feu? C'est ça le baptême de feu. C'est quand on est baptisé du Saint-Esprit. Hein? Parce que la Bible ne nous parle pas de baptême de feu, je sais pas, nous on sort ces choses-là. Baptême d'eau, baptême d'immersion, baptême de feu. Baptême de feu, c'est parce qu'ils ont. La Bible dit que des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur eux leur apparure, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est la rivière. Là. Ils sont remplis. Mais ce niveau de puissance-là ne te permet pas encore d'opérer. C'est pas parce que tu es baptisé du Saint-Esprit que tu peux commencer à opérer avec le Seigneur dans le couloir de ta destinée. Il y a un niveau de puissance que l'on doit désirer pour commencer à servir le Seigneur pleinement. Amen. Et c'est ce que j'appelle le troisième niveau. C'est ce que Zacharie dit dans Zacharie 10, au chapitre 10, au verset 1. Demandez quoi à l'Éternel quoi? La pluie. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Dis avec moi la pluie. Il y a le puits que tu reçois à la nouvelle naissance. Il y a la rivière ou encore le fleuve dont parle Jésus que tu reçois quand tu te fais baptiser du Saint-Esprit. Et il y a la pluie abondante. Dis avec moi la pluie. Ici, il ne s'agit pas de la puissance de la dimension de la rivière. Il s'agit de la pluie. Et cette dimension-là, on appelle ça l'onction. Amen. L'onction. C'est seulement quand tu reçois l'onction que tu peux commencer maintenant à exercer dans le couloir de ta destinée. C'est ce que Jésus-Christ a cherché. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez jamais remarqué ça. Par exemple, quand vous assistez à un culte, où il y a une forte onction dans la salle par rapport au message. Pourtant, toi, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais tu sens que tu as aussi ressenti des choses dans la salle. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est parce que quand la pluie tombe, elle tombe sur tout le monde. Mais ce n'est pas parce que la pluie tombe sur toi que ça veut dire que toi aussi, tu as reçu ça. C'est à cause de la personne qui a reçu ça qu'il déverse ça sur les autres. Mais toi, tu dois désirer ça. Surtout quand tu veux commencer à opérer à une grande dimension avec le Seigneur dans ta vie. Tu dois désirer la pluie. Dis avec moi la pluie. Donc, il ne faut pas confondre la pluie avec le baptême, ni la pluie avec le puits. Tous ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ, quand ils veulent commencer vraiment à servir Dieu dans le couloir de leur destinée, ils doivent désirer ce niveau de puissance-là. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ est allé chercher. Jésus-Christ était né de nouveau. Amen. Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit dans, ici, Jean 3 au verset 21. Jean 3 au verset 21, il est écrit, « Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait. » Entre parenthèses, si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut prier. « Qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Est-ce que juste après cette expérience-là, Jésus-Christ est allé servir? Non. Jésus-Christ avait besoin de la puissance au-delà. Et là, il nous dit dans Jean 4, verset 1, « Jésus, baptisé du Saint-Esprit ou encore rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. » Et quand il a traversé cette étape-là, victorieux, il revient de cette étape-là, il revient. Luc 4 au verset 13, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, quoi? Revêtu de la puissance de l'Esprit. » Là, c'est plus pareil. Là, il y avait la pluie, là. Là, il y avait l'onction. « Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. » Là, il avait reçu l'onction. Et ça, c'est ce que nous devons désirer. Quand tu es face à une situation, quand c'est difficile, cherche ça. Quand tu sais que tu es sur le point de signer des gros contrats, tu dois rencontrer des gens importants. Tu sais que là, les mots que tu vas sortir, ce n'est pas un million que tu vas perdre. C'est à base de très, très haut niveau. Tu vas chercher le revêtement. De sorte que quand tu parles, les gens sont juste bluffés par la sagesse qui sort de ta bouche. Ça, c'est le revêtement. Tu dois faire un discours devant des gens. Va chercher le revêtement, va chercher la pluie, va chercher l'onction. Face à une situation difficile, même quand on te veut du mal, cherche la pluie, cherche l'onction. C'est ce que les disciples ont cherché. Dans Actes 4, au verset 29, regardez ce qu'ils disent, parole vivante. « Maintenant, Seigneur, regarde comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs le courage nécessaire pour annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes de ta puissance par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent fini de quoi ? Prier. La terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. Ça, c'est l'onction. Amen. Donc, la prière est primordiale. Il y a une puissance dans la prière. N'oublions pas tout ce qu'on a dit pendant ces 5 semaines. Cet enseignement est très important. S'il y a des choses que tu n'as pas saisies, je t'assure, demain tu en auras grandement besoin. La prière est très importante. Le jeûne est très important. La consécration est très importante. La soif sincère aussi est très importante pour pouvoir recevoir la pluie, pour pouvoir recevoir la puissance qui vient même de Dieu pour pouvoir opérer avec lui dans la vie. Amen. On va incliner la tête. Je voudrais que tu pries et que tu demandes à Dieu de t'accorder la grâce de comprendre ces choses et de les mettre en pratique dans ta vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour l'œuvre que tu as encore, Seigneur, commencée dans nos vies. À toi soit la gloire et la louange. Merci pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Merci, Père, parce que tu nous accordes non pas le puits ou encore la rivière, mais tu nous accordes, Seigneur, la pluie abondante de l'arrière-saison, Seigneur, qui, quand elle vient, Seigneur, elle se répand sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, de ceux que tu leur accordes la grâce d'expérimenter, Seigneur, les flux divins, les flots divins, Seigneur, les flots d'eau vive, Seigneur, dans leur vie, de sorte que, Père, de grâce, une fois qu'ils aient expérimenté, Seigneur, ces flots divins dans leur vie, ils puissent expérimenter les joies du parler en langue. Ils puissent expérimenter, Seigneur, cette dimension de puissance que l'on a, que l'on reçoit lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est une dimension de puissance, Seigneur, qui nous permet de ne pas être dans la défaite. Père, il y a trop de tes enfants qui ont expérimenté cette dimension, mais qui pourtant vivent dans la défaite, vivent dans la misère et vivent dans l'échec. L'échec n'est pas le partage des enfants de Dieu. L'échec n'est pas notre héritage. Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté, Seigneur, les flots d'eau vive, Seigneur, dans leur vie, qu'ils l'expérimentent de manière particulière et qu'ils viennent témoigner, Seigneur, oh Dieu, de la grâce que tu leur auras accordée. Père, merci également pour ce troisième niveau de puissance, qui est la pluie, Seigneur, la pluie abondante, Père de grâce, qui est, Seigneur, être revêtu du Saint-Esprit. Merci pour l'onction, merci pour le revêtement que tu déverses encore sur nos vies, que tu déverses encore sur la vie de tes enfants, que tu déverses sur les étudiants, Seigneur, pour qu'ils réussissent dans leurs études, que tu déverses sur les entrepreneurs, afin qu'ils réussissent dans leurs entreprises, que tu déverses, Seigneur, sur l'Église, afin que ton Église brille et prospère pour la gloire de Christ. Merci, Père de grâce, pour la pluie abondante de l'arrière-saison. Merci, Père, pour la puissance de la prière. Merci, Seigneur, parce que nos vies de prière sont changées. Nos vies de prière passent à une autre dimension. Nos vies de prière sont tout autres, Père de grâce. Que chacun puisse expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie au travers de la prière. Merci, Père de grâce, pour toutes les révélations que tu nous donnes dans le parler en langue. Merci pour toutes les déclarations prophétiques que tu exauces. Merci, Père, pour la soif sincère que tu me déposes dans nos cœurs pour te chercher. Merci, Père, pour la passion de Christ que tu déposes dans le cœur de chacun. À toi soit la gloire et à toi soit la louange pour ce que tu fais encore dans nos vies, Père, et ce que tu as commencé dans ton Église. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que chacun puisse rentrer chez lui et méditer toutes ces paroles pour la seule gloire de ton nom et les appliquer dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié, Seigneur, avec action de grâce. Que quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous sommes situés à Ngondje, près de l'hôtel Heliconia, Ngondje 2. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.